Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Regardez la mort en face. Voilà ce qu'Emmanuel Macron se propose de faire avec ce texte sur l'aide à mourir. Des mots choisis pour un projet de loi de fraternité, dit encore le président, qui sait bien que ce dispositif risque de heurter les croyants. Dans un entretien qu'il a accordé à la fois au journal Libération et au journal La Croix, le chef de l'État tente de défendre une position d'équilibre née d'un cheminement collectif, lui qui avait confié en décembre que le sujet ne peut être abordé que la main tremblante. Si les Français, sondage après sondage, sont majoritairement favorables à l'aide à mourir, le sujet risque de susciter malgré tout un vaste débat entre ceux qui estiment que la loi ne va pas assez loin et ceux au contraire qui considèrent que c'est une loi qui mène le système de santé vers la mort comme solution. Alors que dit précisément ce texte, quels sont les arguments des pour, des contre et la réalité du sujet en France, mais aussi à l'étranger. Aide à mourir, l'heure du choix, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique et conseiller de la rédaction du magazine Franc-Tireur. Je cite votre livre, Peuple de colère, aux éditions Fayard. Avec nous ce soir, Marina Carrère-Dancos, vous êtes médecin, présentatrice du magazine de la santé sur France 5. Votre documentaire Fin de vie pour que tu aies le choix est disponible en replay sur France TV. Avec nous ce soir, Isabelle de Golemin, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix, qui publie aujourd'hui donc une longue interview exclusive du président de la République sur l'aide à mourir. Je cite votre édito du jour intitulé « Aide à mourir, euthanasie, suicide assisté, les confusions du en même temps ». Nous reviendrons dans le détail sur ce que dit le chef de l'État. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Votre dernier livre, « La France d'après, tableau politique », est paru aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir en direct. Juste quand même un mot avec vous, Christophe Barbier, sur la forme. Interview croisée, La Croix, Libération, on est vraiment dans le « en même temps ». L'idée, c'est de s'adresser à tous.
Oui, c'est de s'adresser à tous, en tout cas à tous ceux qui, à travers ces deux médias, peuvent avoir des opinions divergentes, opposées sur ce sujet-là, et de montrer, il le répète à plusieurs reprises au fil de l'interview, qu'il a voulu écouter tout le monde et qu'il donnera la parole à tout le monde. Non seulement tous les groupes, tous les élus pourront débattre au Parlement, mais il dit bien qu'à travers la Convention citoyenne, à travers l'accueil qu'il a fait aux forces religieuses, aux autorités civiles, il a voulu écouter tout le monde, comme si cette décision n'était pas un fait du prince et ne devait surtout pas être un fait du prince, mais une réflexion collective dont il n'est que le chef d'orchestre. Il incite même à plusieurs reprises sur son évolution personnelle, sur ses hésitations, sur le fait qu'il ne voulait absolument rien décréter, mais simplement écouter.
Ça veut dire que lui-même a des doutes, c'est ça qu'il faut comprendre, il n'a pas de, j'allais dire, de religion sur le sujet.
Lui-même a des doutes, il a une identité spirituelle ou intellectuelle, philosophique, humaniste, Emmanuel Macron, complexe, où on a l'impression que parfois il préside sans s'écouter toujours. On a bien vu sur un autre sujet, mais qui peut être comparé, sur la laïcité et sur la lutte contre les atteintes à la laïcité, sous son premier quinquennat, il a mis plusieurs années avant de durcir le ton, comme s'il faisait confiance à une sorte de main invisible de la laïcité républicaine. Il a bien dû réaliser que ce n'était pas le cas. De la même manière, sur ce sujet, il n'a pas voulu forcer les choses, il n'avait pas de volonté politique, il n'était pas dans le cadre d'une révolution, puisque c'était le titre de son livre de campagne, mais bien d'une évolution. Et là encore, dès les premières lignes de l'interview, il le dit, ni droit nouveau, ni liberté nouvelle. Il ne s'agit que d'affiner, d'affûter, de prolonger la loi Claeys-Leonetti qui a bientôt 20 ans.
Marina Carrère-Dancos, sur le choix des mots, le choix de cette expression d'aide à mourir, là aussi ça traduit une volonté d'équilibre.
Ça traduit en tout cas une volonté très claire de considérer que les Français peuvent entendre ce mot-là et peut-être pas plus, je n'en sais rien. C'était une discussion qu'il y avait eu. Pas d'aide active à mourir, pas d'aide médicale à mourir. Il dit bien qu'il n'y a pas les termes euthanasie, qu'il n'y a pas les termes suicide assisté. Concrètement, c'est la même chose. S'il y a l'aide du médecin, ça sera une euthanasie. S'il n'y a pas l'aide du médecin, ça sera un suicide assisté. Il faut être cohérent dans les termes et dans les pratiques. Mais il ne voulait pas que ça soit inscrit dans la loi, je pense, pour... Par conviction, je pense qu'effectivement, il ne voulait pas aller plus loin que ces mots-là, mais dans le concret, ça revient au même et c'est bien ça le principal.
Et on va rentrer dans le détail de ce que dit vraiment ce texte parce que c'est dans la subtilité, le choix des mots hein, qu'il peut y avoir un débat sur ce qui est exposé par le président de la République. Isabelle de Golemin, donc Lacroix, a mené cet entretien. Est-ce que vous avez ressenti ce qui vient d'être dit sur cette volonté de ne pas braquer, de donner le sentiment que c'est le résultat d'un travail collectif, de rassemblement et pas le fait du prince, disait à l'instant Christophe Barbier.
Oui, je pense que c'est vrai d'ailleurs. Je pense que c'est sincère de sa part. D'abord, il a beaucoup consulté, il a reçu souvent des opposants, il les a écoutés. Donc, je crois qu'il y a une vraie volonté de sa part de consulter, de prendre le temps, etc. Après, effectivement, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'à force de vouloir concilier, hein, comme vous dites, effectivement, oui. Libération et Lacroix, quelque part, c'est que, du coup, il n'emploie pas les bons termes. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une aide à mourir. Une aide à mourir, tout le monde le fait aujourd'hui dans les soins palliatifs. On aide à mourir. On accompagne les gens jusqu'à la mort. Beaucoup de médecins généralistes le font. Beaucoup d'infirmiers en soins palliatifs le font. Voilà, l'aide à mourir, ça se fait déjà. Lui, il parle d'une aide, en réalité, active à mourir, ou d'une aide médicale à mourir. C'est-à-dire que, en fait, on donne la mort, donc c'est un peu différent. Et effectivement, comme disait très bien Marina, soit dans ce qu'il prévoit, soit le malade se donne lui-même la mort, dans ce cas-là, on est dans le suicide assisté, soit il ne peut pas, et dans ce cas-là, on est dans l'exception d'euthanasie. Donc je pense que là, il faut dire les choses aux gens, et bien voir qu'il y a quand même, par rapport à la loi Claeys-Leonetti, c'est pas pareil. La loi de 2016 n'a pas été faite pour donner la mort, mais pour permettre une sédation continue, donc endormir les gens, ce qui permet d'arrêter les soins, et donc ce qui effectivement aboutit ensuite à la mort, des gens qui sont très proches de la mort. Là, on peut être ou pas d'accord, en tout cas, il y a une barrière éthique qui est franchie, puisqu'on va permettre de donner la mort. Et c'est là où on va être attentif au moment du vote au Parlement pour voir tout
ce qui va être mis comme barrière. Sur les détails, sur cette idée d'un travail collégial avec les médecins, sur une expression qui est beaucoup commentée du moyen terme, des gens qui sont condamnés à moyen terme, qu'est-ce que cela recouvre, etc. On va, je pense, essayer de ce soir faire une analyse complète sur la méthode, sur le moment. Il y a beaucoup de critiques sur le moment qui est choisi. Il avait beaucoup différé ce sujet-là, Emmanuel Macron. Les Français, on donne le sentiment, quand on lit vos sondages, d'être plutôt favorables. Est-ce qu'il a accompagné l'opinion ?
Alors effectivement, les sondages sont très constants sur le sujet depuis de nombreuses années, avec entre 70 et 90% d'adhésion. Pourquoi ces écarts ? Le 70%, c'est quand vous introduisez la possibilité pour les interviewés de ne pas se prononcer.
Ah oui.
90%, c'est quand on est du référendum, du oui ou du pour ou du contre. Quand on laisse aux gens la possibilité de se réfugier dans le ne se prononce pas, on a quand même 15%. Donc ça prouve bien qu'il y a une partie de l'opinion qui s'interroge sur ces questions. Mais même avec cette formulation, c'est quand même 70%. Et comme je vous disais, ça peut monter à 90%. Donc il y a une adhésion forte de l'opinion depuis très longtemps sur ces sujets-là, ce sujet-là. À ceci près que ce n'est pas forcément une priorité absolue du moment. C'est-à-dire, si on devait le faire, on serait pour, mais on ne sent pas monter des profondeurs du pays une clameur en disant il faut vite légiférer sur ce sujet-là. Ça fait très longtemps déjà que ce sujet est sur la table. On a vu les évolutions, la loi Leonetti, puis la loi Claeys-Leonetti, au travers aussi d'un certain nombre de drames qui ont été très médiatisés, donc l'opinion s'est familiarisée. Ce qu'on constate également, quand nous, on sonde les Français, c'est qu'on touche là, du doigt, un des derniers tabous au sein de la société française, dans une société très post-moderne, c'est-à-dire la mort est complètement masquée, elle est cachée, on ne peut pas la regarder en face, on a vu ce qui s'était passé au moment du Covid. Et on voit comment aussi, par exemple, les pratiques en matière d'obsèques ont très fortement évolué. En 1980, vous avez 1% des sépultures qui donnent lieu à une crémation. Aujourd'hui, c'est 40%. Ah oui. Et donc, ouais, la vieille matrice catholique se disloque progressivement. Et on est là-dessus, on est sur ce sujet-là aussi. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens à mourir. On va faire disparaître le corps. On n'accompagne plus forcément avec des grandes sépultures, etc., etc. Donc, on est sur quelque chose qu'on veut mettre à distance et se dire il faut absolument que les gens ne souffrent pas, ouais. Ça aille relativement vite et qu'on n'en parle plus.
Lui, il dit justement, il utilise cette expression « regarder la mort en face ».
Voilà. Et alors, c'est bien trouvé comme expression parce ouais. que notre société, on reprend les travaux d'Ariès sur le rapport à la mort, notre société ne regarde plus la mort en face. C'est pour ça que je prenais le cas des obsèques. Et donc là, ça revient avec ce sujet-là. Donc ces sondages nous disent qu'il y a une adhésion forte, mais avec ce tabou qui fait que les gens ne se sont pas forcément très concrètement penchés sur le sujet. On est sur une réponse qui est assez technique, en fait. C'est-à-dire on va aider avec des protocoles. Là où les choses se compliquent, c'est quand vous interrogez des médecins ou des professionnels des soins palliatifs qui vous disent « le même individu qui rentre dans notre service peut nous dire au début de son séjour « quand ça va se compliquer, il faut me débrancher, si je peux parler très trivialement ». Et puis la même personne, à quelques jours de sa fin, va avoir un discours qui est différent. Quand nous, on sonde des gens bien portants qui ne sont pas confrontés pour leurs proches ou pour eux-mêmes, on a des taux qui sont massifs. Et donc, c'est ça qui peut être un peu compliqué.
On va voir tout cela dans le détail. En tout cas, c'est un entretien conjoint accordé à Libération et La Croix. Donc, le président a levé le voile sur ses intentions. Un texte qui sera débattu à partir du 27 mai à l'Assemblée. Emmanuel Macron dit s'attendre à des oppositions, mais défend une méthode basée sur, je cite, un cheminement collectif. À droite, les Républicains dénoncent une loi d'euthanasie et une instrumentalisation du sujet à la veille des élections européennes. Constance Meyer et Thibaut Gross.
Les mots sans détour du président ce matin dans la presse.
Avec cette loi, on regarde la mort en face.
Emmanuel Macron choisit les colonnes de Libération et de La Croix pour esquisser les contours d'un projet de loi sur la fin de vie.
Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir, parce qu'il est simple et humain.
Ni euthanasie, ni suicide assisté selon le chef de l'État, qui s'attend à un débat musclé.
Je ne suis pas naïf, il y aura des oppositions. Mais ce texte est le fruit d'un travail et d'un cheminement collectif, comme rarement il y en a eu.
Une loi sur l'aide à mourir, une vieille promesse de campagne. En 2017, le candidat Macron lance le débat. Mais ce n'est que 5 ans plus tard qu'il réunit 184 citoyens tirés au sort pour réfléchir sur le sujet.
Je suis très très heureuse de vous accueillir cet après-midi et de lancer avec vous officiellement cette convention citoyenne sur la fin de vie.
Après des mois d'échanges, la Convention citoyenne se prononce à 75% pour une aide à mourir. Le président en prend acte.
Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023.
Mais finalement, les mois passent et le texte est sans cesse repoussé.
Il n'y a pas de bon rythme sur un tel sujet. Donc je plaide coupable pour être tout à la fois, en même temps, trop lent et trop rapide.
Ce matin, la nouvelle tête de liste de la majorité pour les européennes justifie la méthode.
Il y a eu un cheminement long entre l'élection présidentielle de 2022 et puis cette proposition qui a été mise sur la table avec des consultations, des prises de participation des citoyens dans ce débat. C'est important, on ne légifère pas à la légère sur un sujet comme celui-là.
L'accès à l'aide à mourir sera encadré. Il ne devrait concerner que les personnes majeures disposant d'un discernement plein et entier. Les patients atteints d'Alzheimer sont donc exclus. Des personnes avec des maladies incurables, dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme, dont les douleurs sont réfractaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être soulagées. Une équipe médicale devra se prononcer sur le cas des patients souhaitant en bénéficier. Un projet de loi dont ne souhaite pas entendre parler une partie des Républicains.
Ce que propose Emmanuel Macron est bien une loi d'euthanasie. La vraie fraternité n'est pas de donner la mort, mais de donner la main.
Malheureusement, je crois que personne n'est dupe du moment dans lequel cette annonce intervient. Nous sommes à la veille d'une élection européenne. On voit le président de la République qui engage le pays dans un débat infiniment complexe au moment où on devrait pouvoir se concentrer justement sur l'enjeu des 3 mois qui viennent, sur cet enjeu de l'Europe qui est absolument décisif. On voit bien finalement que le président de la République, qui n'a plus la main sur rien, a décidé de se réfugier dans les questions de société parce que c'est peut-être le dernier endroit où il peut encore faire l'actualité.
Le président a aussi annoncé une nouvelle enveloppe d'1 milliard d'euros pour renforcer les soins palliatifs. De la poudre aux yeux pour le Rassemblement national, lui aussi très hostile à une loi sur la fin de vie.
Au moment où, en France, un département sur 5 n'a pas de lit de soins palliatifs, au moment où le Sénat, dans un rapport, et la Cour des comptes nous ont montré qu'il y avait un vrai déficit de soins palliatifs en ville et dans les EHPAD et à l'hôpital, il y a là un vrai chantier, c'est-à-dire ne pas souffrir avant de mourir, avant d'imaginer immédiatement la fin de vie.
La gauche, elle, jubile, impatiente de légiférer sur le sujet. Caroline Fiat, aide-soignante, porte ce combat en tant que députée de la France insoumise.
Moi, j'avais proposé ma proposition de loi lors de notre première niche parlementaire en février 2018. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sujet depuis des dizaines d'années. Enfin, peut-être en 2024, nous allons légiférer sur ce texte. Moi, j'entends et je ne peux que comprendre qu'on puisse être opposé à ce nouveau droit. Mais on ne peut pas l'interdire aux personnes qui le souhaitent.
Le texte arrivera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 27 mai prochain. Selon un récent sondage, 83% des Français sont favorables à l'euthanasie.
Et cette question qui nous est posée par Anne, qui habite en Belgique, d'ailleurs on pourra parler dans un instant de ce qui se passe en Belgique, mais qu'est-ce qu'un pronostic vital engagé à court ou moyen terme, n'est-ce pas trop imprécis, Marina Carrère-Dancausse?
Ça va être vraiment le travail des commissions des parlementaires qui vont devoir vraiment préciser cela, parce qu'à court terme, on sait que c'est quelques heures, quelques jours, et ça concerne majoritairement des patients qui sont atteints de cancer en phase terminale. La décision est assez simple. À moyen terme, quand on en discute un peu avec différents juristes, ils disent que ça pourrait être, par exemple, moins de 6 mois. Alors d'abord, je ne vois pas un seul médecin capable de dire « vous allez mourir dans 5, 6 ou 7 mois ». S'il le fait, c'est que c'est un escroc. Donc ça, c'est impossible à dire, que ça soit moins de 6 mois, moins d'un an, c'est tout à fait impossible. Et puis le problème, c'est que ça, du coup, ça va exclure des patients qui rentreraient, à part ça, parfaitement dans le cadre de cette loi. Un patient, par exemple, qui aurait eu un accident vasculaire cérébral, qui serait enfermé dans son propre corps, mais parfaitement conscient, donc avec une décision libre et éclairée, peut mourir 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Donc ces patients-là,
là, ils seront exclus de ce texte-là.
Absolument, parce qu'il faudra que les 4 critères soient respectés. Les autres critères le sont, mais celui-là, il ne le sera pas. Donc ça va exclure des patients qui ne pourront pas effectivement dire qu'ils vont mourir dans moins de 6 mois. Encore une fois, je ne vois pas un médecin pouvoir l'affirmer.
Isabelle de Colmain.
Oui, en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on va commencer à fixer des limites. Oui. Et ensuite, combien de temps ces limites vont tenir? Parce qu'effectivement, on va dire moyen terme, et puis il y a des gens qui ne vont pas s'y retrouver, donc qui vont faire pression pour que la loi évolue. C'est en tout cas ce qu'on a vu en Belgique ou au Canada, hein, où la loi évolue vraiment quasiment tous les 2 ans pour inclure de plus en plus de personnes. Donc c'est peut-être ça. En fait, le problème, c'est qu'on est sur des zones très grises, des zones compliquées, hein, en quoi c'est vrai que c'est difficile d'être complètement contre, d'être complètement pour. Mais tout le danger, à mon avis, de cette bascule qu'on est en train de faire, c'est de laisser passer ensuite quelque chose de beaucoup plus important.
En fait, vous dites le problème, c'est qu'on fait tomber un tabou, ce que vous avez dit au début de l'émission, et qu'ensuite, il pourrait y avoir soit une application, soit des interprétations extensives.
En fait, des interprétations sur le moyen terme. Ouais. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on va passer peut-être aux mineurs, qu'on va passer aux maladies psychiques.
Alors pour l'instant, on n'en est pas là. Hein.
Non, mais c'est vrai que le danger, c'est qu'on ouvre une possibilité, alors qu'on n'a pas réglé quand même l'énorme problème, qui est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de soins palliatifs, le manque de structure capable d'accueillir les gens qui souffrent. En fait.
On va en parler parce qu'effectivement, c'est un sujet central et qu'il a évidemment abordé. Mais si on reste sur le contenu du texte, chaque mot, lorsqu'on parle de ces sujets-là, est essentiel et il est à prendre et à analyser. C'est ce qu'on essaie de faire là. Lorsque dans le texte proposé par le président, il est proposé d'exclure les patients atteints de maladies psychiques ou de maladies neurodégénératives, oui. C'est-à-dire que là, on parle d'Alzheimer.
Neurodégénérative avec une atteinte cérébrale.
Oui.
Voilà, pas les neurodégénératives comme les maladies de Parkinson ou les maladies de Charcot.
D'accord.
Ils n'ont pas d'impact cérébral, en fait, les patients peuvent demander de manière libre et consentie tout à fait avec un éclairage.
Bon, il y a une question de Robin. Qui pourra décider d'une fin de vie si le patient atteint d'Alzheimer, de folie ou de sénilité n'est plus à même de décider?
Ça pose 2 questions. Quand il n'y a pas d'atteinte cérébrale, ça pose la question du moyen terme. J'ai une maladie de Charcot, je sais qu'il y a un compte à rebours inéluctable. Mmh. Est-ce que ce n'est pas à moi, malade, de décider de mon moyen terme? Ça va être un débat intéressant. Mmh. Sur les maladies où on perd conscience de qui l'on est, de ce que l'on fait, comme un Alzheimer avancé. Une question, est-ce qu'on tiendra compte des directives anticipées? Quelqu'un qui sait qu'il a la maladie d'Alzheimer et qui écrit noir sur blanc, le jour où je ne reconnais plus mes enfants, où je ne sais plus où j'habite, où je suis incapable de faire les gestes de la vie courante, m'habiller, manger, etc., je demande le suicide assisté. Et donc, qu'on me donne du poison et que, comme je ne suis pas capable de le prendre, comme c'est prévu par le projet, quelqu'un me le donne à ma place. Est-ce qu'au moment où on constate cet état clinique décrit quelques mois ou quelques années avant par le patient, on applique sa volonté? Parce que s'il faut être conscient à l'instant T parfaitement, il n'y aura
pratiquement personne qui ne sera concerné par cette loi, à part les cancers en fin de vie. Donc on est en train de revenir à la case départ. Ça, je pense que ça va être un débat intéressant au Parlement.
Le texte est très précis, en tout cas, pour justement pour les maladies d'Alzheimer et les directives anticipées. On a beaucoup incité les Français à les faire. Là, on se rend compte que finalement...
Il y a 18% de Français qui les ont fait.
De plus de 50 ans, ça ne fait pas beaucoup de gens.
Y compris le président de la République, puisqu'il dit qu'il les a faites à la fin de cette
interview. Mais en fait, effectivement, si on dit, si un jour j'ai maladie d'Alzheimer dans 20 ans et qu'à un moment je ne suis plus conscient, je veux qu'on arrête les choses, non, ça ne sera pas possible, en fait, puisque à ce moment-là, on ne pourra plus exprimer un consentement libre et éclairé, donc on ne rentrera pas dedans. Et c'est la crainte du président qu'effectivement, ça soit des malades inutiles et encombrants et que les familles souhaitent arrêter la vie de ces proches-là.
Mais il y a ça, dans le débat, il y a ça qui est, quand on parle de sujets comme Alzheimer, c'est cette crainte-là, c'est la crainte des familles, ce soit le choix des familles plus que des patients.
Et c'est pour ça que le président a bien dit que ça serait une décision qui viendrait du patient et seulement du patient. Et donc, s'il n'est pas en mesure d'exprimer ce choix, il n'y aura pas de possibilité d'euthanasie. Ouais.
Mais en effet, s'il l'a exprimé des années avant et qu'on lui demande de confirmer à l'instant T,
il
ne
peut pas le faire.
Il faudra qu'il puisse le faire de manière
Faudrait-il
libre.
Rendre obligatoires les directives anticipées? Est-ce qu'on pourrait dire aux citoyens, ça, c'est tellement douloureux et délicat pour la collectivité de décider à votre place le moment venu. Par ailleurs, ça coûte tellement cher à la collectivité. On vous demande de faire vos directives anticipées et on en tiendra compte. Si vous dites, je veux vivre jusqu'au bout de ma vie biologique, quel que soit mon état, on le respectera. Ouais. Et personne dans la famille ne pourra dire accélérer.
Juste une précision, on sait très bien que quand on a une maladie grave, évolutive, on peut très bien, au début de la maladie, dire, je veux qu'on achève ma vie si elle n'est pas digne. Et à la fin de la vie, dire, non, mais moi, je veux continuer jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas préjuger de quelque chose qui aura été fait 20 ans avant. La décision, elle ne pourra être qu'au moment de la demande.
C'est très compliqué de dire quelle est la vie qui est utile, quelle est la vie qui vaut la peine, et de dire quelle est la vie qui vaut cher, parce que c'est ça votre raisonnement.
Bien sûr, mais c'est
donc effectivement, il ne faut surtout pas aller là-dessus. En plus, il y a des gens qui arrivent avec des Alzheimer. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas bien de quoi ils sont conscients, mais en tout cas, il y a des sourires, en tout cas, il y a des gestes. Quel est aussi le prix de la vulnérabilité? Quel est le prix de la maladie? Quel est le prix de cette forme d'abandon? Je trouve que c'est très compliqué. C'est là où, effectivement, la loi, pour l'instant, me semble...
Ça veut dire que ça ne pourra pas être utilisé par des familles, en gros. C'est ça.
Il n'y a que le patient qui pourra le demander.
Voilà, c'est
tout
ça.
Le problème, c'est la pression. C'est-à-dire que quand quelqu'un... Ouais. Parce que là, vous êtes en train de dire aux gens, ben voilà, ça va être possible. Une vieille dame qui sent bien, et c'est vrai, parce qu'il y a un vrai problème, c'est le problème des aidants pour tout ce qui est fin de vie, qui sent bien que pour ses enfants, c'est super dur et super cher. Il va se dire, je suis trop...
Bon, OK.
Là, voilà. Et ça, c'est vrai. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut?
Il y a la question des aidants, mais on a entendu déjà la petite musique du Rassemblement national parlant des soins palliatifs, en opposant les deux, parce que ce qui va monter aussi derrière, au bout d'un moment, si cette loi est votée, elle le sera sans doute quand on voit les sondages. C'est l'idée que ça pourrait devenir un outil de régulation des dépenses en matière de santé. En disant, au bout d'un moment, peut-être qu'on va mordre la ligne et on va inciter à débrancher plus rapidement. Et rappelez-vous ce qui s'était passé au moment du Covid. On avait déjà des récits complotistes qui mettaient en cause la vaccination. Donc, à l'issue d'un vote... d'un texte comme celui-ci, dans un contexte de raréfaction de la dépense de l'argent public, notamment en matière de santé, vous aurez immanquablement des discours qui diront, au lieu de dépenser des sous dans les soins palliatifs, on a préféré mettre en place cette loi pour pouvoir évacuer un certain nombre de cas problématiques. Sur le plan politique, le reportage montrait très bien ce qu'Emmanuel Macron cherche à faire. Alors, on ne peut pas faire le procès de quelque chose qui tomberait comme ça ex nihilo. Il y a eu effectivement un long cheminement. Il avait annoncé sa volonté de légiférer avant la présidentielle de 2022. Il y a eu cette convention citoyenne. Mais ça tombe là, 3 jours après l'institution de l'IVG, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et à trois mois des élections européennes. Et on a une partie de la droite républicaine comme on pouvait l'attendre, se dit opposé à cela. Et c'est une façon aussi pour Emmanuel Macron de parler à l'électorat de centre-gauche qui l'a abandonné en disant « Regardez, on revient à nos orientations sociétales initiales. C'est nous les premiers au monde qui avons inscrit l'IVG dans la Constitution et on va faire cette loi sur la fin de vie. » D'où le fait qu'à côté de la croix, puisqu'il fallait parler aux catholiques, on ait choisi Libération, qui est un peu le journal emblématique d'une certaine gauche qui avait pu voter en 2017 pour Emmanuel Macron.
Que disent les médecins, Marina Carrère, donc aussi cette déclaration du docteur Claire Fourcade, qui est médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle dit « Je fais de l'aide à mourir au quotidien, mais ce que propose le président, c'est un projet de loi pour faire mourir, un projet de loi euthanasie et suicide assisté sur décision médicale. »
Les médecins sont évoluent d'abord beaucoup. Hein. Il y a des études qui sortent menées par le Conseil de l'Ordre des médecins qui montrent qu'il y a de plus en plus, on n'est pas très haut encore, hein, mais de plus en plus de médecins qui ne sont pas opposés à un geste d'aide à mourir pour leurs patients. Il y avait eu d'ailleurs en septembre 2023 une tribune au Monde avec 90 professionnels de santé, dont des médecins de soins palliatifs, qui disaient qu'il fallait aller plus loin effectivement et qu'il fallait considérer ce geste comme l'ultime geste de soins et d'accompagnement que l'on pouvait proposer. Il y a beaucoup de médecins qui sont opposés, c'est tout à fait normal et audible, il n'y aura aucun problème parce qu'il y aura une double clause de conscience. Donc aucun médecin qui ne souhaiterait pas faire ce geste ne le fera. Oui. Si on se réfère à la Belgique, où c'est à peu près 3% des personnes qui meurent avec une euthanasie, 3%, ça ne demande pas 200 000 médecins en France. Donc le problème
c'est
ne sera pas là.
Au Canada.
Et c'est parfaitement respectable et respecté. Comme pour l'IVG, on n'a jamais demandé à un médecin contre l'IVG de le pratiquer. Aucun médecin contre cet acte ne le fera.
Mais il y a une décision d'un collège de médecins.
Alors ça, c'est un peu le souci, je trouve, de ce texte qui n'existait pas dans le texte tout à fait remarquable d'Agnès Firmin-Lebaudeau. C'est cette décision collégiale où, en fait, si un des médecins contre pour des raisons personnelles, religieuses, le patient ne va pas s'y retrouver. Ce qui se passe en Belgique, où en général le patient demande à son médecin traitant, hein, qui l'accompagne depuis toujours, de l'aider à mourir, il y a une autre demande qui est faite auprès d'un, voire deux médecins, et notamment d'un médecin référent de la pathologie. On est plus, là, je trouve, dans la vraie aide au patient que s'il y a des opinions religieuses ou personnelles qui se mêlent de cette décision qui concerne vraiment le patient et sa fin de vie.
Et puis ensuite, il dit dans l'interview, il rentre un peu dans le détail de la façon dont cela pourrait se passer, donc sur le collège de médecins et aussi sur les délais. Peut-être vous pouvez nous en dire.
Oui, les délais, d'ailleurs, il a hésité 2 jours, 15 jours. Bon, finalement, c'est...
Après, une fois que la décision est prise.
Voilà, une fois que la décision est prise, et heureusement qu'il y a ce délai. Après, on peut se dire que c'est même un délai assez rapide. Si on voit les délais dont on a besoin quand on veut prendre un rendez-vous à l'hôpital, c'est vrai qu'on en est loin. Donc, moi, je crois aussi que pour les médecins, le problème, ce n'est pas forcément leur conviction religieuse ou personnelle. C'est aussi qu'il y a un lien entre le médecin et celui qu'il soigne, de confiance. Et c'est vrai que pour certains médecins, c'est assez compliqué de se dire, mon malade a confiance en moi, et s'il sait que c'est moi qui peux demander, voilà, dire oui ou pas oui sur la mort, il a peur que cette confiance soit brisée. Donc je crois qu'il y a aussi ça, c'est le lien très fort entre un médecin et son patient qui repose sur la confiance, qui est d'ailleurs le serment d'Hippocrate. Hein. Le médecin, il est là pour soigner, il n'est pas là pour faire mourir. Alors, on peut effectivement, il y a des médecins qui le font, et je respecte complètement, hein, pour accompagner.
Et qui le font déjà. Hein,
ils le font déjà.
Sur demande de leur patient.
Oui, enfin, ce qu'on fait, c'est la sédation, normalement.
Non, ce qui se fait déjà en France, mais de manière illégale.
Oui, voilà, c'est ça, de manière illégale. Mais certains le revendiquent, l'assument face caméra en disant « moi, je le fais ».
On est dans quelque chose d'assez compliqué. Mais c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, en Belgique, il y a énormément de médecins qui refusent.
Mais est-ce que ce n'est pas la fin d'une hypocrisie ?
Mais est-ce que tout doit être... Alors, c'est ça, c'est le vrai problème. Est-ce qu'il faut mettre la loi partout ? Est-ce que ça doit être la loi qui dit ça, ou est-ce que c'est, comme on reste aujourd'hui avec la loi Claeys-Leonetti, qui normalement permet de régler à peu près de régler tous les cas. Moi, je connais des gens de Manny Charcot qui sont morts dans des gens très proches, dans des services de soins palliatifs. Ça, c'est bien. Enfin, bien, ça se passe jamais bien, hein, mais voilà, ça s'est passé. Et donc, il faudrait déjà s'assurer que beaucoup de cas ne peuvent pas être réglés. Et ensuite, est-ce qu'on a besoin de lois qui vont... Enfin, moi, à mon avis, le risque, c'est qu'on va de plus en plus créer une espèce de contentieux et quelque chose qui va peut-être empêcher justement ce que vous dites, le geste de confiance entre un médecin et son patient. Mais de fait, ça se...
Avec l'idée que ceux qui le font, ces médecins qui le font, se mettent en risque, puisqu'ils sont dans une forme d'illégalité, vous disiez...
Enfin, on n'est quand même pas... Quand on a des bons services de soins palliatifs, franchement, normalement, y a... le problème, c'est qu'il n'y en a pas.
Alors, ça, on va y revenir. Vous parliez des Français, peut-être un mot sur la Belgique. 110 personnes domiciliées à l'étranger sont spécialement venues en Belgique pour avoir recours à l'euthanasie. 101 étaient français.
Oui.
Bon, alors, il y a la proximité géographique et puis il y a aussi le fait qu'en France, ce soit moins... que ce soit pas possible.
Ce soit pas possible. Il y a cette proximité géographique, mais on crée une inégalité sociale, puisque c'est cher. Il faut avoir les moyens économiques, les moyens aussi culturels, connaître le système, avoir les réseaux pour y accéder. Donc, légiférer en France, c'est aussi pour rétablir cette égalité de chacun face à cette décision. Et puis, il se joue autre chose dans cette affaire de collégialité des médecins. Il ne faut pas qu'elle s'amuse à mourir sans l'ordonnance de son médecin.
Cette phrase est dans deux pièces de Molière, Le médecin malgré lui et Le médecin volant. Et qui nous dit bien qu'à l'époque déjà, avec ironie, il y avait cette tentation du corps médical, de la corporation médicale, de garder le monopole sur l'accès à la mort. Ça ne doit pas évidemment être une décision de la famille, ça ne doit pas être une décision de la loi, ça doit le plus rarement possible être une décision du patient, ça doit être notre décision. Nous décidons quand quelqu'un passe de vie à trépas. Et moi je vois dans la résistance de beaucoup de médecins, ou de syndicats de médecins, aussi dans la résistance de Jean Leonetti qui est médecin et qui a défendu sa loi avec des arguments, cette volonté de garder entre blouses blanches cette décision, il meurt, il ne meurt pas tout de suite. Et je pense qu'on est en train de vivre un moment de rupture où le patient, l'individu, dit au corps médical, non.
C'est moi qui
l'ai dit. Pas à vous, c'est pas un corps religieux, c'est à moi. C'est à moi. Dans le cas de la maladie de Charcot, décider qu'on meurt après avoir pu encore parler pour dire au revoir à ses enfants, autrement que leur dire au revoir avec un regard perdu, c'est quelque chose de digne pour le droit de l'individu. Or, les médecins ne prononceront pas cette décision de mourir si la personne est encore en état de parler. Alors que le patient, lui, peut souhaiter partir quand il est encore en état
de pouvoir le dire.
Oui, et d'assumer et de rédiger son protocole personnel de départ, avec un souci de dignité, d'esthétique d'accomplissement affectif. Et ça, c'est possible si vous allez en Suisse ou en Belgique. Mais ça n'est pas possible aujourd'hui si vous êtes en France.
Et il faut payer pour le faire, ce que vous disiez. Il y a une inégalité face à cela, oui.
Alors, l'inégalité des soins, elle est sur beaucoup de choses.
Oh, bien sûr, bien sûr.
Là-dessus. Non, ce qui est intéressant, et là je vous rejoins complètement, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où ce n'était pas le médecin, c'était le curé. Hein, qui s'occupait de la mort. Ensuite, effectivement, c'est devenu le médecin, la science médicale, jusqu'à plein pouvoir. Et puis, ça a été la loi Kouchner, quand même, hein, contre tout ce qui était, acharnement thérapeutique, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une autonomisation des malades qui veulent avoir la main dessus, et ça, on comprend. Et je pense que les médecins, il faut aussi qu'ils évoluent là-dessus, qu'ils soient à l'écoute. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant des services où il y a quand même une décision collégiale, où on écoute aussi la famille, etc. Mais c'est vrai, c'est une vraie...
Quand je disais, effectivement, que c'était des opinions souvent personnelles, qu'elle soit religieuse ou culturelle, des médecins. Actuellement déjà, dans les cas de demande de sédation profonde et continue de la part des patients, il arrive bien souvent que les médecins du service de soins palliatifs disent « Non, il n'est pas encore temps, vous ne souffrez pas assez. Je ne sais pas quel médecin est capable de dire « Non, là, vous ne souffrez pas assez, attendez un peu. »
Oui, parce que à moyen terme, avec des souffrances réfractaires.
Voilà. Alors, les souffrances réfractaires qu'on ne sait pas traiter, ça d'accord, mais quand c'est à quelques heures, même pour la sédation profonde et continue, quel médecin est capable, et certains le font, hein, j'y ai assisté, de dire non, là, c'est pas encore temps, vous allez attendre encore un petit peu. Et c'est ça, moi, et c'est pour ça que le colloque singulier qu'il y a entre le patient et son médecin, justement, pour moi, est justement une confiance extrême que le patient, à un moment qui a été suivi par ce médecin, puisse demander à ce médecin, il faut aller jusqu'au bout, aidez-moi, et que le médecin accepte. On sort justement de cette prise de position personnelle de certains médecins qui va à l'encontre de la demande des patients.
Marina Carré-Dancos, pourquoi on a entendu dans le débat depuis ce matin certains dire que cette loi ne va pas assez loin, elle rate son objectif?
D'abord parce qu'il y a pas mal de personnes qui étaient pour des critères beaucoup moins stricts qui sont énoncés, et notamment pas un pronostic vital engagé. Il y a des associations qui souhaitent que certains patients, et c'est ce qui existe en Suisse, puissent demander la mort alors qu'ils n'ont pas de maladie incurable, mais que simplement ils n'ont pas envie de mal vieillir. La France, très clairement, a décidé que la loi française n'était pas là pour ça, la société ni les médecins non plus. Ce que personnellement, moi, ce à quoi j'adhère parfaitement, c'est vraiment... Pour moi, ça doit être vraiment uniquement pour des patients qui vont mourir prochainement, quel que soit le terme.
Jérôme Fourquet, on aurait pu rester à la loi Claeys-Leonetti? Je veux dire, tout à l'heure, Alain Minc disait qu'il y avait eu un consensus politique, une loi votée à l'unanimité qui faisait autorité. Pourquoi? Est-ce que c'est une pression de l'opinion? Est-ce que vous pensez qu'on met de côté la politique politicienne, si tant est que ce soit possible? Mais est-ce qu'on aurait pu rester à l'état des lieux qui était celui de la loi Claeys-Leonetti?
Alors, manifestement, il y avait des zones grises qui permettaient de trouver des arrangements, mais localement, si je puis dire, mais qui pouvaient exposer ceux qui pratiquaient l'euthanasie à des poursuites. On a également toute une série d'associations qui poussaient à ce qu'on aille plus loin.
Il y a eu des témoignages.
Des témoignages.
On pense à François Hardy, on pense à Lynn Renaud, qui se sont emparés de ces sujets-là.
Qui ont fait suite à d'autres affaires qui avaient déclenché le vote de la loi Leonetti, plus la loi Claeys-Leonetti. Et puis, on avait toujours ces sondages. Alors, ce n'est pas parce que les sondages demandent quelque chose qu'on est obligé de se ruer dessus. Mais
c'est une façon d'accompagner la société.
Oui, et le président de la République, encore une fois, avant la présidentielle de 2022, on va aller plus loin. On est sur un processus évolutif. On n'est pas arrivé au bout du chemin. Il faut qu'on réfléchisse tous collectivement. Cette convention citoyenne s'est réunie et a voté à 75%. Donc, vous voyez qu'on est à peu près dans l'épure de ce que mesurent les sondages. Et manifestement, donc, il y avait des demandes de certaines parties de la société pour qu'on aille plus loin. Et comme disait Christophe, je pense qu'on est là sur un symptôme très fort, hein, une manifestation supplémentaire de ce long processus d'autonomisation absolue de l'individu jusqu'à décider des conditions de sa propre fin.
On va poursuivre cette discussion. En tout cas, c'est une maladie que vous avez citée, hein, qui est toujours au cœur des débats lorsque l'on évoque la question de la fin de vie, la maladie de Charcot et cet enfermement dans son propre corps que vit Loïc Rézibois. Il a été diagnostiqué à 45 ans, c'était il y a 2 ans, avec une espérance de vie de 3 à 5 ans. Il veut s'éteindre dans son pays, la France. Il a rencontré Aubry Perrault avec Anne Maquignon et Diane Cacciarella.
Bonjour à tous, je m'appelle Loïc, j'ai 45 ans et je vais mourir.
Loïc Rézibois avait interpellé le président dans cette vidéo il y a quelques mois pour appeler à une évolution de la loi. Un cri du cœur sur les réseaux d'un homme qui a appris en 2020 être atteint de la maladie de Charcot.
Apprendre officiellement par un neurologue que votre espérance de vie vient de passer de 40 ans à 3 à 5 ans, c'est quand même difficile, d'autant plus que, comme j'ai été diagnostiqué tardivement, je n'étais pas éligible aux traitements expérimentaux qui auraient pu augmenter mon espérance de vie. Donc c'était un peu une double sanction. J'étais condamné à mort.
À 42 ans, le destin de cet ancien policier très sportif bascule. Peu à peu, muscle après muscle, la maladie paralyse son corps.
Ce qui est terrible dans la maladie de Charcot, c'est que vous savez que le jour d'après sera plus dur que le précédent et que les jours suivants sont encore plus durs. En fait, cette maladie, elle éteint un à vos muscles et vous terminez finalement paralysé, sans même pouvoir bouger le petit doigt. Mais ça vous prive aussi de la parole. Moi, ma parole est déjà touchée au niveau de mon élocution. Et puis ça touche aussi votre respiration. Ça vous empêche même de manger. Et vous finissez finalement par mourir étouffé lorsque vos muscles respiratoires lâchent. J'ai compris que j'allais mourir, j'ai accepté, et j'ai envie de dire, on le sait à la naissance qu'on va mourir. Par contre, j'aimerais bien mourir.
Loïc aime encore sa vie, dit-il. Mais il veut choisir sa mort lorsqu'il n'en pourra plus. Alors il regrette les hésitations du président.
Le projet de loi devait être présenté en septembre 2023. Et depuis 7 mois, le président n'a cessé de tergiverser sur la question. Je dirais même pire, il a reculé en permanence. Et pour moi, il ne s'est pas adressé aux bons interlocuteurs. En tout cas, pas à tous les bons interlocuteurs.
Si Loïc salue les annonces d'hier, il s'inquiète d'un critère évoqué par le président comme un préalable à l'autorisation d'une aide à mourir.
Le décès doit être prévu à court ou moyen terme. Le moyen terme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chacun a sa propre résilience par rapport à la maladie. Et pour les malades de Charcot, puisque c'est le cas que je connais, on peut être dans les premiers mois de sa maladie et trouver déjà sa vie insupportable. C'est pour ça que ce critère, j'espère que les députés l'amenderont et qu'on ne retiendra que le fait qu'il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Quand quelqu'un vous dit « j'en peux plus » de manière réitérée, c'est que vraiment il est allé au bout du bout et qu'il veut que ça s'arrête.
Loïc aimerait rendre son dernier souffle à l'île de Ré, là où il a tant de souvenirs avec ses parents, ses 2 enfants et sa femme Caroline, à ses côtés à chaque instant. Mais il espère aussi pouvoir le faire en toute légalité.
Marina Carrère-Dancausse, votre réaction à ce reportage, à ce témoignage.
Un homme très courageux que je connais, qui est assez extraordinaire, qui se bat.
Qui n'est pas concerné par le texte tel qu'il est aujourd'hui.
Je ne sais pas si un médecin pourrait dire dans 6 mois vous êtes mort. Je ne pense pas, c'est impossible. Je ne sais pas quelle est maintenant son espérance de vie. Elle est peut-être de 3 mois, peut-être d'un an, peut-être de 18 mois. Je n'en sais rien du tout. Mais je comprends parfaitement qu'il puisse considérer qu'il y a un moment où il ne pourra plus bien mourir.
Et... Il dit ça, il dit « je veux bien mourir ». Ça veut dire quoi,
c'est
mourir.
De pouvoir encore, ça je rejoins tout à fait ce que dit Christophe, pouvoir dire adieu, pouvoir parler, pouvoir peut-être encore serrer dans ses bras ses proches. Chacun a sa limite. Pour les patients qui ont une maladie de Charcot, ça peut être le fait de ne plus pouvoir parler, le fait de ne plus pouvoir respirer spontanément et de devoir être appareillé. Chacun a sa limite et j'entends parfaitement que certains patients se fixe une limite et puis finalement la dépasse au fur et à mesure où ils vivent parce qu'ils se disent non, j'ai encore des moments de bonheur, mais ça ne sera jamais une obligation. Si vous demandez l'euthanasie et que vous l'obtenez, enfin l'aide à mourir et que vous l'obtenez, si vous dites ben non, finalement je continue à vivre, continue, personne ne va vous faire une injection. Il faut quand même être parfaitement conscient de ça. C'est-à-dire que c'est même si le président ne veut pas le dire, c'est un droit. Pour moi, ça serait un droit, jamais une obligation. C'est juste quelque chose en plus.
Mm-hmm. Christophe Barbier.
Il faut. Regardez ce qui a été écrit, ce qui a été montré. Il faut revoir le film Le Soleil en face, qui raconte l'histoire d'un homme atteint d'une maladie incurable et qui veut apporter un souci esthétique à sa cérémonie des adieux et terminer par une grande fête d'amour et d'affection et de décider de partir. Il faut relire le livre La Grande Santé de Frédéric Badré, atteint de la maladie de Charcot, qui en est mort et qui raconte chaque étape, comment un jour il accroche sa guitare une dernière fois au mur, il sait qu'il ne la prendra plus parce que les doigts ne sont plus là et ce chemin marche après marche vers la mort. Il faut lire le témoignage de Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'État en 2001 aux personnes âgées. Elle avait rédigé la loi sur l'APA, l'allocation personnelle d'autonomie. Elle est partie en allant en Suisse, je crois, pour un suicide assisté. Et son témoignage est profondément marqué par cette réflexion politique. Elle aurait pu rédiger cette loi. C'est de cela que les députés doivent se nourrir, au moins autant que d'écouter, et ce sont des voix à entendre, les corps religieux aujourd'hui, les corps médicaux et les associations diverses. Ça sera un vote en âme et conscience pour les parlementaires. Ça ne sera pas un vote sur directive politique d'un parti ou d'un groupe. Et donc ça va être un moment de grande démocratie représentative.
Et cette réaction de Charles Biétry, ancien journaliste sportif atteint aussi par la maladie de Charcot, qui a dit « j'ai réussi à bien vivre, je n'ai pas envie de mal mourir ». Il utilise exactement la même expression. « La maladie de Charcot m'a déjà privé de l'usage de mes jambes, de la parole. Bientôt, ce sera la respiration accompagnée de souffrances pour moi et les miens. Cette loi, un premier pas, peut nous offrir la liberté et la dignité. Merci. »
Et je voulais juste ajouter un mot pour ce que vous disiez sur les corps religieux, parce qu'on en fait aussi des moyens de pression et on les pousse en avant, que le pape ou les évêques ne puissent pas adouber l'euthanasie, ça me paraît parfaitement normal. C'est quand même dans les textes religieux. Mais qu'on arrête d'englober tous les catholiques en disant que tous les catholiques sont contre l'évolution de la loi.
L'extrême onction, ça s'appelait le viatique, c'est-à-dire au sens étymologique, l'autorisation de passer de vie à trépas. On n'en est plus là. Mais le bien mourir de la sédation profonde actuelle de la loi Claeys-Leonetti, c'est un bien mourir physiologique. On ne souffre pas, on s'endort très bien et c'est fondamental. C'est pas un bien mourir affectif, émotionnel, psychologique ou encore une fois esthétique, c'est important le cérémonial. Il faut aller vers ces bien mourir nouveaux.
Isabelle de Golemin, il y a cette question qui nous est posée ce soir par Ray dans le Gard. Ne risquons-nous pas de faire face à des abus avec cette assistance à mourir? C'est la crainte.
C'est la crainte de. Effectivement, c'est pour ça qu'il faudra effectivement être très attentif au moment du débat parlementaire pour que les choses soient bien claires et bien transparentes et qu'il y ait cette forme de traçabilité. Le président a employé ce mot parce que, en fait, le problème, c'est que tous les pays qui l'ont fait, par exemple le Québec, aujourd'hui, c'est 8% des décès qui sont par l'euthanasie. Et donc ça devient avec des mineurs, avec des maladies psychiatriques. Là, ils vont encore voter sur les handicapés physiques. Mais quelle est cette société où on dit ça, quoi? Donc voilà, c'est quand même...
Même si ça repose sur une sorte de libre arbitre et de volonté de...
Alors,
dire,
le problème, c'est que
je ça décide.
Ça repose sur certaines personnes. Mais il y a des personnes qui sont seules. Il y a des personnes qui n'ont personne pour les aider. Il y a des personnes qui ont des enfants qui ne demandent qu'une chose, c'est de s'en débarrasser. Il y a plein de cas. Le problème, c'est qu'on est dans une société, justement, de fraternité. Et il faut arriver quand même à ce que cette fraternité, cette solidarité, elle s'exprime pour tout le monde et que ce ne soit pas que certaines personnes qui puissent choisir parce qu'ils peuvent et d'autres à qui on impose.
Je me tourne encore vers Marina Carrère-Dancausse. Vous êtes médecin, je le rappelle. Est-ce qu'on fait une loi pour les patients de la maladie de Charcot?
Non.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à chaque fois, on est, c'est le cas ultime.
C'est un exemple visible et très très parlant, mais c'est surtout pas d'abord une loi pour certaines maladies, c'est une loi pour des patients qui répondent à ces quatre critères, c'est pas des patients qui ont pu faire un accident vasculaire cérébral et sont enfermés dans leur corps, qui ont pu avoir un accident dans la voie publique et sont extrêmement lourdement handicapés et ne veulent pas continuer dans ces conditions-là, pour des patients qui ont une maladie de Parkinson, pour des patients qui ont un cancer et qui ne sont pas à quelques jours de mourir, c'est vraiment pas pour on met telle et telle maladie et si vous n'avez pas cette maladie, vous ne rentrez pas dedans. C'est des patients qui répondront à ces critères.
Jean Fourquet.
Non, rien.
Vous ne voulez pas réagir à ce reportage. C'est vrai qu'à chaque fois, on voit ces images, de ces témoignages. Évidemment, si on faisait un sondage là entre nous, voilà, en demandant est-ce qu'il a le droit de choisir de bien mourir, 90% voilà, des Français seraient favorables.
On parlait de tabou ultime et bien évidemment, personne ne se projette pour soi-même ou pour ses proches dans cette situation. Mais il se trouve que, comme ce débat est ancien maintenant, ce type de reportage ont été portés à l'écran à de multiples reprises. Il y a eu même des affaires qui ont été extrêmement médiatisées. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, s'est dit, mais effectivement, dans telle situation, on comprendrait que... Ouais. Sauf qu'ensuite, on passe à la théorie. Et donc là, ça devient plus compliqué de légiférer sans qu'il y ait ces risques ensuite de dérapage.
Là, on l'a abordé rapidement depuis le début de l'émission, la question des soins palliatifs. Est-ce que les fonds annoncés par Emmanuel Macron, là aussi il y avait une attente, 1 milliard ajouté au 1,6 milliard qui était déjà provisionné, je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas prévu par le gouvernement, est-ce que ce n'est pas ça la réponse, la principale réponse qu'il faut apporter à la question de la fin de vie?
C'est essentiel, et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse qu'il n'y ait qu'un texte de loi et pas deux, qu'il n'y ait pas un texte sur le soin palliatif et un texte sur la fin de vie. C'est un continuum, c'est un ensemble, et les soins palliatifs doivent être apportés à tous les patients qui en ont besoin. Et des soins palliatifs bien menés et en nombre suffisant, ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui, notamment à domicile, notamment en EHPAD et donc bien des départements, les soins palliatifs résoudront 95% des problèmes de fin de vie.
C'est... Parce que la souffrance,
mais parce que pour la majorité,
la douleur, parce que
voilà, parce qu'une fois que tout ça sera résolu, pour la majorité des cas, ce seront des patients qui ont encore quelques jours à vivre et qui voilà auront besoin d'une sédation profonde et continue. Mais pour tout le reste, l'important c'est d'accompagner la douleur, c'est d'accompagner la souffrance psychologique et les soins palliatifs le font remarquablement. On n'en a pas assez, on n'en a pas partout, on n'en a pas au domicile et c'est essentiel parce que.
Il y a combien de départements où il n'y a pas de soins palliatifs?
21.
C'est en gros l'an dernier 300 000 personnes qui auraient dû en bénéficier, 100 000 qui ont pu en bénéficier. Ça, il faut multiplier les soignants, il faut multiplier les lits, il faut multiplier l'argent. C'est incontestable, mais c'est surtout ne pas opposer soins palliatifs et aide à mourir. En Belgique, on fait de l'aide à mourir dans des unités de soins palliatifs. Des médecins qui étaient opposés il y a 20 ans en Belgique, et qui étaient des médecins de soins palliatifs, les pratiquent aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une opposition. C'est un ensemble qui doit aboutir à l'accompagnement le meilleur possible pour le patient.
C'est pour ça que cette loi ne veut pas effacer la loi Claeys-Leonetti, mais la compléter et la prolonger. Le seul problème philosophique sérieux, c'est le suicide, disait Albert Camus, je crois, dans le mythe de Sisyphe. Tout ce que l'on dit là n'enlève pas à l'individu son libre arbitre de mettre fin à ses propres jours, mais sans que la société n'intervienne. Donc on n'en viendra jamais, j'espère, en effet, à envoyer à la mort des mineurs qui sont simplement dans une phase de dépression profonde et de douleur identitaire.
C'est possible dans d'autres pays européens.
Ça s'est passé en Belgique, oui, il y a un an, pour une jeune fille de 23 ans qui avait un état dépressif profond.
Et là, on passe
après,
dans
moi,
une société
je connais pas le cas,
de barbarie.
Je pense qu'il faut...
Ça, les maladies dépressives...
Pour l'instant, en France, sont totalement exclues, mais de manière extrêmement ferme, hein, vraiment. Il y avait une discussion qu'on avait eue avec Agnès Firmin-Lebaudot dans les critères qui permettaient de demander l'aide à mourir. Il y avait avoir des souffrances physiques réfractaires à tout traitement. Et je lui ai dit non, il faut rajouter... psychologique, parce que psychologique et psychiatrique c'est pas pareil. Il y a des patients qui n'ont aucun espoir d'amélioration, mais qui ne souffrent pas physiquement, qui ne souffrent que psychologiquement. Ceux-là doivent rentrer dans le cadre de la loi. Ça n'a rien à voir avec les maladies psychiatriques qui sont totalement exclues de cette loi.
Les forces qui s'opposent au droit à une aide médicale à mourir rappellent celles qui, il y a 50 ans, s'opposaient à l'IVG. C'est une tribune de médecins et d'intellectuels parmi lesquels le philosophe André Comte-Sponville ce matin dans Le Monde.
C'est pas étonnant, puisque décider de ce qu'est l'entrée de la vie et de ce qu'est la sortie de la vie, comment on entre et comment on sort, ce sont des débats éthiques et des débats d'intimité philosophique correspondants. Quand on a allongé à 14 semaines la période on a eu ce débat. Quand est-ce que ça commence la vie? Alors la loi nous dit désormais que jusqu'à 14 semaines, on peut avorter. Donc le bébé n'est pas juridiquement un être humain. Et puis quand arrive l'affaire Palmade, on nous dit, mais attention, un bébé qui, même moins de 14 semaines, sort vivant dans un accident et meurt, ah ben ça fait un homicide. Donc on voit bien qu'on flotte et qu'il y a une zone grise sur ces sujets-là.
Alors, on va rappeler ce que disait le pape. Le 23 septembre, il avait mis en garde lors de sa visite à Marseille contre les perspectives faussement dignes d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer. Les catholiques, comme toutes les religions monothéistes, font bloc contre une loi qui aide à mourir. L'Église de France dénonce la violence des dispositifs et s'inquiète pour les personnes les plus fragiles. Léo Seux, Juliette Vallon et Dominique Lemarchand avec Arnaud Fora.
Ils ont été parmi les premiers à réagir à l'interview du président de la République. Les représentants de l'Église catholique, toujours farouchement opposés à l'ouverture d'une aide à mourir.
Il y a vraiment la tentation de dissimuler par des mots doux la violence des dispositifs. Et en réalité, quand on regarde de près le dispositif, on est plutôt dans l'ordre et de l'exception d'euthanasie et du suicide assisté. Il y a certaines décisions finalement ou positions tellement à l'écart du respect de la personne fragile qu'on peut se demander si dans la Startup Nation, il y a vraiment place pour les personnes non productives, pour les personnes fragiles.
En France, comment les catholiques vivent-ils ce débat ? Nous sommes allés voir des membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Eux ont dû se pencher attentivement sur le sujet. Des discussions, il reste ces croquis en forme de résumé.
Voilà, là c'est par exemple la roue des opinions. Donc il y a ceux qui refusent l'aide active à mourir, ceux qui sont oui, mais avec des conditions. Eh bien moi je me situe là.
Mais n'y voyez pas une position de principe. Pour Céline, pas question de se ranger de prime abord derrière l'avis de la religion catholique.
Je ne voulais pas que ma foi me dicte ce que je devais penser. Si je crois en ce Dieu-là, en cette foi, enfin, et que j'ai cette foi-là, c'est avant tout parce que c'est une foi qui prône la liberté. Si Dieu m'a donné une tête, c'est que pour que je puisse m'en servir et que je puisse réfléchir avec.
Une réflexion libre, nourrie aussi par son expérience personnelle et le souvenir du décès de sa mère après un cancer il y a 5 ans.
On a eu la chance qu'elle puisse être accompagnée et que nous, on puisse être accompagnés via une structure de soins palliatifs. Donc, pour moi, une fin de vie, sans dire que c'est le plus beau moment de ma vie, ça peut être serein. Et moi, mon inquiétude, c'est l'ouverture à l'aide active à mourir va offrir cette possibilité-là de fin de vie à des personnes qui, en fin de compte, pourraient avoir une autre option, mais ne le savent pas.
Parmi les autres citoyens tirés au sort, Jean-Michel, lui aussi croyant, la Convention citoyenne l'a fait changer d'avis.
Au début, j'étais vraiment réticent, évidemment, à cette idée d'aide active à mourir. Et puis, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de situations aujourd'hui, dans un contexte, en fait, historique, où on vit de plus en plus vieux.
Au fil des sessions et des témoignages, il se forge progressivement sa propre conviction.
J'étais vraiment bouleversé par certaines situations, voilà, qui sont évidemment inconnus du grand public, bah des gens qui sont demandeurs et qui sont dans des situations finalement atroces quand on veut bien les regarder en face.
En revoyant les images des représentants des différents cultes venus échanger avec les conventionnés, il se souvient avoir été déçu par leur position.
Être dans une posture finalement où on dit votre agonie ne m'intéresse pas à partir du moment où la méthode que vous choisissez ne respecte pas mes croyances, ça m'a plutôt heurté.
Si un tiraillement persiste, Jean-Michel est aujourd'hui à l'aise avec sa position différente de celle de la religion catholique.
Il faut sérieusement avancer sur des situations qui sont vraiment critiques et ne pas mettre sous le tapis des souffrances où des gens en toute liberté demandent cette dernière volonté, quoi. Hein.
Selon les derniers chiffres, près d'un Français sur trois se revendique aujourd'hui catholique.
Nous étions en train de commenter ce reportage et vous me disiez, Jérôme Fourquet, c'est parfois plus compliqué, c'est pas monolithique.
Non, votre reportage est très bien fait. On voit que institutionnellement, les représentants des cultes ne peuvent pas dire autre chose.
Tous les cultes, de tous en l'occurrence, les cultes, on parle là des
catholiques, mais oui. Ne peuvent pas dire autre chose que leur opposition philosophique et conceptuelle à ce projet de loi. Leurs ouailles, déjà, sont moins nombreuses on parlait tout à l'heure de l'IVG, qu'il y a 40 ou 50 ans au moment de 40 ans au moment du passage, 50 ans au moment du passage à l'IVG, et elles sont aussi divisées dans nos sondages. Par exemple, 48% des catholiques pratiquants nous disent qu'ils sont favorables, 40% sont opposés. Donc on a une population catholique pratiquante qui est divisée, qui est partagée sur cette question. Alors c'est la composante de la population qui est la plus opposée, mais même chez les catholiques pratiquants, en fonction de votre expérience personnelle, familiale ou autre, déjà on peut dire oui, il y a le dogme, il y a nos convictions profondes, mais ouais. Quand on a vu concrètement ce qui s'est passé, dans certains cas, c'est plus compliqué que cela.
Isabelle de Colmain.
Oui, moi je crois qu'il y a eu, beaucoup de débats. Nous on a vu énormément de débats dans les diocèses, dans les paroisses. Les catholiques se réunissaient, ils donnaient la voix aux pour, aux contre, ils réfléchissaient, ils étaient là avec leurs documents. Donc il y a eu tout un travail très sérieux. Je pense qu'en fait pour la plupart des catholiques, c'est moins un dogme qu'une attention plus fragile. Et d'ailleurs dans les soins palliatifs, vous savez, il y a beaucoup de bénévoles dans les soins palliatifs. Il y a énormément de chrétiens, catholiques ou protestants ou orthodoxes, qui se sont beaucoup investis dans les soins palliatifs, voilà, pour aider les gens. Un petit peu comme vous pouvez dire. Pour les exclus dans la rue, en fait, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ensemble des associations, même si ces associations ne sont pas chrétiennes. Voilà. Je pense que c'est plus qui les gêne le plus, c'est le côté... voilà, il y a des gens qui sont fragiles, il y a des vies, mais est-ce qu'elles valent quand même pas la peine d'être vécues?
Tu ne tueras point, c'est un des commandements.
Oui, tu ne tueras point, et puis surtout, tu t'occuperas de tout le monde.
On précise quand même, pour les gens qui nous regardent ce soir, on parle de la religion catholique ce soir, mais vous avez assisté à des réunions de travail, l'ensemble des religions monothéistes sont sur la même ligne, hein, les musulmans, les juifs.
Oui, mais que ce soit quand c'est les représentants, moi, ça me paraît tout à fait
normal.
Oui.
Cette question, je pense que tout le monde se pose. Que se passera-t-il en cas de désaccord de la famille?
Alors, le problème, c'est qu'il ne devrait pas... Enfin, la famille n'a pas à intervenir, en l'occurrence, dans cette histoire, puisqu'il est bien vraiment précisé que c'est une demande uniquement du patient, et comme on lui demande un consentement libre et éclairé, il est parfaitement capable de savoir ce qu'il veut à cet instant-là. Et ce qui m'inquiète dans le texte que je n'avais pas vu dans le texte initial, c'est qu'il est écrit que les membres de la famille qui peuvent avoir intérêt à agir pourront faire recours à la demande. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça peut être a priori ou a posteriori? Mais la famille, a priori, n'a pas à intervenir dans aucun sens. Effectivement, pour éviter en plus des abus qui seraient de pousser à une demande d'euthanasie d'un patient qu'il ne voudrait pas. C'est centré autour du patient.
Alors, si on se souvient de l'affaire Lambert, enfin, ça va être, on va vers des contentieux épouvantables.
Justement, si on considère que c'est que le patient,
et en recours auprès de qui ? Auprès des médecins ?
C'est pas précisé, ça c'est important.
On peut juste peut-être rappeler que c'est un point de départ, hein, ce projet de
Absolument.
Loi, qui va être soumis à un débat parlementaire. Et là, le président se veut assez ouvert sur l'évolution du texte en disant on va laisser le temps au débat.
C'est un projet de loi qui a le mérite d'exister, qui a le mérite de poser cette avancée sociétale qui est quand même essentielle.
Et je vous remercie, Marina Carrère d'Encausse, d'avoir été avec nous. Vous devez vous éclipser, donc je vous libère. Merci,
merci infiniment.
Encore de votre présence. On va passer maintenant aux questions des téléspectateurs. À vos questions. Gilbert, dans les Bouches-du-Rhône, on a célébré la liberté des femmes à disposer de leur corps. Pourquoi tout un chacun ne pourra-t-il pas disposer de sa vie?
Bien sûr, c'est l'enjeu de cette loi. Alors, tout un chacun peut disposer de sa vie. Ça s'appelle le suicide. Oui. Évidemment, c'est renvoyer chacun à l'exercice d'une violence contre lui. C'est extrême. Donc, la société, dans certains cas, propose d'assister celui qui veut mettre un terme à sa vie. Et c'est tout ce débat qui va être en jeu. Mais c'est bien cela devant quoi on est aujourd'hui.
Peut-être aussi, il faut se demander qu'est-ce que la vie, parce que la vie, ce n'est pas simplement la vie de la personne, c'est les relations qu'il peut avoir avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec ses parents.
Oui, mais c'est la sienne.
Voilà, c'est toujours quelque chose qui peut... Enfin bon, moi j'ai des exemples assez précis de gens qui ont trouvé que leurs grands-parents n'auraient pas dû prendre telle décision, etc.
On fait rentrer ce que disait Marina Carrère-Dancausse. La décision de la famille.
Non, c'est pas rentré. Je pense que simplement c'est une décision. C'est pas qu'une décision qu'individuelle. C'est une décision qui entraîne la société et la société dans son ensemble, dans son devoir aussi de protéger les gens, de faire attention aux liens des gens, de faire attention aux gens qui changent.
C'est intéressant ce débat là. Oui, on est au cœur du débat en fait. Est-ce qu'on est là pour faire société, prendre des décisions qui nous engagent tous? Est-ce qu'on est là aller au bout de ce que doit être le choix individuel, décider de sa vie ou de sa mort
et de la façon dont on part, etc. Mais le fait que le président ait décidé de faire cette interview 3 jours, encore une fois, après l'inscription de l'IVG dans la Constitution, tout ça n'est pas anodin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de bien faire passer que c'est un continuum et qu'il y a une cohérence idéologique et philosophique et que Emmanuel Macron incarne ce combat-là. Quand une tribune indique que ce sont les mêmes forces, soi-disant, donc sous-entendu réactionnaires, conservatrices, qui s'opposaient à l'IVG, il y a 50 ans qu'aujourd'hui qui s'oppose à la fin de vie. Je pense qu'Emmanuel Macron achète, si je peux dire, ce propos, parce que ce propos le place, lui, dans le camp de ce progressisme sociétal dont il se revendique.
Dans l'Antiquité, quand on considérait une personne, l'État ne les exécutait pas, les condamnait à se suicider. C'est comme ça que Socrate est obligé de boire la ciguë. C'est comme ça que Cicéron est obligé de se suicider. Il a d'ailleurs beaucoup de mal, il s'ouvre les veines, ça ne coule pas, il se met dans un bain qui est censé être empoisonné. Mais on laissait l'honneur à la personne qui était condamnée à mort, non pas de lui couper la tête, de l'exécuter, c'était humiliant, mais de se suicider.
C'est possible dans la loi.
C'est possible dans la loi.
S'il n'est pas en capacité de le faire, ce sera fait par un médecin.
Bien sûr.
Mais il y a la possibilité de s'administrer soi-même.
Soi-même la potion létale.
Si je puis me permettre, depuis l'Antiquité, il y a eu le christianisme.
Bien sûr.
Il a changé encore notre société avec des notions de fraternité et d'aide à la vie qui ne sont peut-être pas toutes
achetées. Alors, c'est un mot qu'il a utilisé, le président de la République, qui dit c'est un texte de fraternité. Vous pensez qu'il visait les catholiques ?
Oui, parce que c'est vrai que les catholiques, on dit au contraire, la fraternité, c'est d'aider les gens qui sont en train de mourir, mais de les aider à bien mourir, de les accompagner jusqu'au bout. Et c'est vrai que dire que la fraternité, c'est de donner la mort, c'est un petit peu compliqué.
Ils visent peut-être un autre groupe qui s'appelle la franc-maçonnerie. Parlant de fraternité, c'est les frères. Et donc, on est en plein dans cette filiation spirituelle et idéologique.
Une question de Jean-Claude. Pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Mais tout le monde a un pronostic vital engagé. C'est le moyen terme qui est difficile à définir.
On voit bien que le court terme, dans la loi Claeys-Leonetti, a déjà été défini, ne souffre pas de débat. C'est le moyen terme.
Et ce moyen terme, qu'il vise lorsqu'il dit moyen terme, au fond?
Je pense que c'est mon avis, c'est 6 mois, 8 mois, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est très très compliqué, parce que ce que disait très bien Marina, c'est qu'un médecin aujourd'hui est incapable. Ça dépend des individus. Il y en a qui vont durer un an, il y en a qui vont durer 6 mois. Donc c'est très compliqué.
Question d'Yvette, suicide assisté ou euthanasie, quelle est la différence qui va pousser la seringue?
C'est ça. En fait, c'est l'exception d'euthanasie. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, c'est une euthanasie. Suicide assisté, c'est effectivement donner la possibilité au malade de lui-même s'administrer la potion. Il y a des États comme l'Oregon où c'est assez intéressant parce qu'on fait une ordonnance au malade qui ensuite doit aller en pharmacie acheter son produit. Et donc, il y a tout un temps de réflexion et finalement, il n'y en a qu'un tiers qui utilise ce produit. Donc, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas inintéressant.
Et puis attention, là, c'est un suicide assisté conditionné. Dans le livre qui vient de sortir chez Grasset sous la plume de Thomas Misraki, Le dernier soir, c'est un suicide tout court. C'est une dame septuagénaire qui est en forme, à part quelques tracas non incapacitants de la vieillesse, et qui décide simplement que la vie dont elle a profité, ça suffit, et donc elle se suicide, tout simplement. Là, c'est pas le cas avec cette loi. C'est un suicide assisté conditionné à tout ce que l'on a dit, c'est-à-dire des souffrances, etc. Donc ça limite quand même beaucoup le champ.
Cette question de Chantal, qui habite Paris, sans même parler d'euthanasie au moment de la fin de vie, ne pratique-t-on pas déjà silencieusement une aide à mourir dans les hôpitaux? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça se fait.
Et c'est exactement ce que disait Jérôme, c'est-à-dire qu'après, on va avoir aussi attention au complotisme, et ils nous ont voulu nous faire mourir, etc. Donc, il faut vraiment que ces choses-là soient transparentes et qu'il y ait une forme de confiance très importante entre les médecins, la famille et le patient. Et c'est ça qui est l'essentiel, je crois, au-delà de la loi, c'est ce lien et cette capacité, effectivement, des médecins de s'ouvrir à la famille, de s'ouvrir aux autres et de prendre une décision très collégiale.
Vous voulez dire un mot ?
Non, juste, on disait tout à l'heure, les budgets promis pour les soins palliatifs présentent ça. Et donc, si on ne rectifie pas ça, on ouvrira la porte à ces récits complotistes en disant « on a fait cette avancée législative pour faire des économies sur les soins palliatifs ».
En précisant, c'est aussi présent dans cette interview que le chef de l'État dit que ce sera pris en charge. Par la société.
Que l'assurance maladie couvrira cela. Mais comme disait Marina, c'est 95% des cas qui sont traités déjà par les soins palliatifs. Donc c'est le 5% restant qui sera financé. Honnêtement, c'est rien. Il manque en ce moment une grande loi dans les quinquennats Macron, c'est la loi sur le grand âge.
Absolument.
Tout le reste de la vie des personnes.
Allez, regardez cette question. Infirmière libérale, j'ai travaillé avec deux services de soins palliatifs qui ont fermé par manque de moyens. Pourquoi ? Là, c'est un sujet majeur. Pourquoi ce projet de loi divise-t-il déjà la communauté médicale ? On l'a dit, il y a le serment de Socrate.
Oui, puis il y a des médecins qui ne se sentent pas d'entrer dans cette relation-là avec leurs patients.
Le plus important n'est-il pas d'attendre la demande des patients en fin de vie ? Je crois qu'on a répondu un peu en cette question avec toutes les complexités de ce dossier. On se retrouve demain en direct dès 17h30. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.